RFJ Info.
Le journal de Raphaël Chalvera.
Bonjour, 2067 oui, 1930 non. Le 18 juin 2017, Moutier décidait de rejoindre la maison jurassienne. Un an après, jour pour jour, le vote n'est toujours pas validé. Des voix autonomistes prévotoises s'expriment. Elle est retenue en otage au Mali depuis décembre 2016 et elle est en vie. Une vidéo de la Française Sophie Pétronin a été publiée tout récemment. Son fils Sébastien, qui réside à Porrentruy, se bat pour sa libération et contre l'oubli. Un joli pas de samba pour l'équipe de Suisse de football. Elle a tenu le Brésil en échec hier lors de son premier match de la Coupe du Monde. La presse romande est euphorique. Les joueurs gardent les pieds sur terre. Météo, le soleil percera de plus en plus les nuages ces prochaines heures. Le temps sera estival demain avec des températures comprises entre 22 et 26 degrés dans le Jura. La semaine s'annonce plutôt belle. C'était donc il y a un an, jour pour jour, le 18 juin 2017. Moutier choisissait de rejoindre le canton du Jura lors d'un vote communaliste historique à 51,7%, 2067 oui, 1930 non. Une année après, la situation n'a guère avancé puisque des recours sont toujours en traitement à la préfecture du Jura bernois. En clair, le scrutin n'est encore pas validé. Pour marquer ce premier anniversaire, RFJ a reçu deux invités dans la matinale. Laurent Coste, le directeur de campagne de Moutierville jurassienne, et Chantal Méria, présidente de la section prévotoise du mouvement autonomiste jurassien et présidente du ralliement des prévotois jurassiens. Une Chantal Méria irritée par l'actuelle situation de blocage à Moutier.
C'est fondamentalement injuste ce qui se passe maintenant. C'est ça qui me révolte et qui me met en colère. Ce n'est pas juste parce qu'on a fait une campagne géniale, on a fait une campagne joyeuse, on a fait une campagne festive et une campagne honnête, une campagne magnifique. Tout le monde l'a reconnue. Et maintenant, l'image qui risque de rester de nous, en tout cas, qui est celle qu'on veut donner de nous maintenant, c'est que nous sommes des tricheurs. C'est insupportable, tout simplement, et injuste. Dans un premier temps, c'est clair que j'en veux à ceux qui ont déposé recours, surtout que la plupart des recours, ce sont des recours qui n'ont aucun sens, mais aucun sens. Mais c'est clair que, ensuite, ceux qui doivent les traiter, ça permet de se poser beaucoup de questions, sans compter les autorités bernoises qui tiennent des propos qui sont épouvantablement malhonnêtes, insidieux, et qui sont humiliants et injurieux.
En vue du vote communaliste, Moutier, ville jurassienne, a voulu mener une campagne exemplaire, sans aucun excès ni débordement. L'exercice a été qualifié de réussi, mais un an après, l'impatience a gagné certains militants. Le directeur de campagne, Laurent Coste.
La pression monte dans la marmite et effectivement, il y a certains militants qui trouvent que nous devrions avoir une action plus radicale, plus musclée, mais je crois que nous voulons conserver cette ligne que nous avons eue jusqu'à maintenant. C'est cette ligne qui nous a permis de convaincre les gens, qui nous a permis d'expliquer le projet, et je ne crois pas que ce soit le bon moment de changer de ligne. Par contre, nous l'avons dit, il ne faudrait pas que les limites soient dépassées et à ce moment-là, évidemment, il pourrait y avoir un durcissement de notre politique.
C'est quoi les limites ?
Bien, les limites, ça serait par exemple que la décision sur les recours soit encore repoussée ou alors que ces recours soient acceptés pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Notre comité a fait en sorte, tout au long de la campagne, de veiller justement à ce que les choses se passent correctement. Et aujourd'hui, on essaye par des petites phrases, par des insinuations, des sous-entendus, on essaye de porter le doute sur la validité de ce vote. Et ça, comme l'a dit Chantal Méria, c'est inacceptable. J'aimerais juste rappeler, si vous le permettez, que le ministère public a conclu, il n'y a aucune preuve indiquant des actes concrets dans le but d'influencer le vote de tiers en échange d'avantages ou sous la menace. L'enquête a également permis de balayer les rumeurs selon lesquelles des bulletins auraient été remplis de manière méthodique. Donc le ministère public a rendu très nettement une décision qui dit que les choses se sont déroulées correctement. Malgré ça, nous avons quand même toujours des petites phrases et des sous-entendus et nous disons stop.
Un an après le vote communaliste de Moutier, le gouvernement jurassien a aussi réagi ce matin. Il affirme rester confiant et prêt à aller de l'avant. L'exécutif note que les travaux préparatoires en vue du transfert cantonal avancent, malgré les recours encore pendants. Il réaffirme par ailleurs son attachement à ce que la Confédération continue de jouer son rôle de bons offices jusqu'à l'issue du processus de transfert. Le gouvernement dit encore qu'une fois les recours levés, il mettra tout en œuvre pour que le rattachement se fasse dans les plus brefs délais et le respect de tous. Ça va swinguer samedi à Courgenay. Le Point Jazz fête ses 10 ans. À cette occasion, la petite salle de concert d'une capacité de 100 places organise un mini-festival. Il s'ouvrira à 11h30 et sera accessible à tous au prix unique de 40 francs. Une cinquantaine de bénévoles s'activent en coulisses pour que tout soit prêt. Le président du Point Jazz, Denis Béda, nous en dit plus sur cet événement.
on aura deux scènes, une scène extérieure et une scène intérieure. Et là, se succéderont des groupes, principalement de jazz, mais aussi on a donné un temps aux jeunes musiciens, puisqu'il y aura le collectif 7e case, et puis aussi les groupes de rock des collèges, ainsi que la musique des jeunes de Courgenay, qui mettra le feu à cette cantine qui se trouvera dans la rue La Gare à Courgenay.
Et le fait d'ouvrir ce mini-festival à d'autres musiques que le jazz, c'est une volonté peut-être pour l'avenir de devenir plus éclectique ?
Je pense que ça peut être une alternative, mais ça veut dire aussi que on doit être ouvert à toutes les musiques, puisque, alors, principalement le jazz, mais le jazz, c'est très très vaste. Et puis, par exemple, le grand concert du soir, avec de la musique cubaine, ça montre aussi que le point de jazz, c'est pas seulement le jazz traditionnel, mais c'est vraiment ouvert aux musiques du monde.
Des propos recueillis par Alexandre Michler. Le programme de ce mini-festival est en lien sur rfj.ch. La pression s'accroît sur le président de la Poste, Urs Schwaller, après le scandale Carpostal. Quelques jours après la démission de la directrice, Suzanne Rouhoff, le vice-président du conseil d'administration, Adriano Vassalli, a annoncé son retrait samedi. Mais cela ne calme pas toute la berne fédérale. Dans la presse du week-end, certains exigent que l'on s'intéresse également à Urs Schwaller, qui aurait eu connaissance d'irrégularités. Doit-il partir, comme le réclame l'UDC Thomas Eschi ? On écoute la réponse de Manfred Bull, conseiller national UDC et vice-président de la commission des télécommunications.
C'est difficile de le dire actuellement, il y a un certain nombre de rumeurs ou d'informations, parfois de pseudo-informations qui circulent. Je crois qu'il faut peut-être laisser un tout petit peu les choses se calmer, mais comme je le dis, on ne peut pas faire l'économie de cette question. Je crois que Urs Schwaller, qui n'est là que depuis peu de temps, savait un certain nombre de choses. La question c'est, est-ce qu'il a mal réagi ou pas suffisamment ? Actuellement, j'ai pas d'éléments pour exiger une démission immédiate ou rapide sur la base de quelque chose de grave, mais je crois que le conseil d'administration, dans son ensemble, et aussi son président, ne peuvent pas faire l'économie de se poser cette question.
Et c'est donc dans un contexte tendu que la Poste tiendra son assemblée générale la semaine prochaine. Sophie Pétronin est en vie et son fils, qui vit à Porrentruy, ne compte pas la laisser tomber. Une nouvelle vidéo de la dernière otage française a été publiée la semaine dernière. Sophie Pétronin est retenue au Mali depuis décembre 2016 par un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Si plusieurs vidéos avaient déjà été publiées, son fils Sébastien Pétronin n'était pas certain que sa mère était encore vivante. Mais le film de la semaine passée a ravivé les espoirs. Elle s'adresse à lui, se dit bien traité par ses ravisseurs et lui propose de venir la rencontrer au Sahel. Le groupe terroriste qui la détient serait prêt à le recevoir et à discuter avec lui, un signal fort pour Sébastien Pétronin. Il a rendez-vous aujourd'hui à Paris avec le gouvernement français. Il compte demander de l'aide pour sauver sa mère.
On a besoin d'aide, de toute façon. On est un petit comité de soutien, Libérons Sophie, mais c'est tout petit. J'ai peu de connaissances, je manie pas les armes. J'ai mon petit réseau d'amis bienveillants qui m'aident à avancer. Et Dieu sait si on avance, et c'est quand même important. Mais on demande évidemment au gouvernement français, à chaque fois qu'on a la possibilité de les rencontrer, on essaye de secouer le cocotier et de leur dire aidez-nous d'une manière ou d'une autre, aidez-nous. Puis surtout aidez-la, elle, parce qu'elle a besoin d'aide. Et je pense que ce comité de soutien et puis son fils ne suffiront pas à la sortir de là. Je ne sais pas trop ce qu'on va leur demander, mais on va leur dire exactement où on en est, ce qu'on entreprend, et on va désespérément leur dire prenez les choses en main, mettez de vraies actions en place et essayez d'envisager une libération, parce que on peut pas la laisser comme ça, on peut pas l'abandonner, on peut pas l'oublier et surtout on peut pas la sacrifier, c'est pas possible.
Sébastien Pétronin a révélé qu'il partira en Afrique dans les prochains jours pour tenter de faire bouger les fronts et essayer de négocier la libération de sa mère. Plus d'informations sur le site du comité de soutien, le www.libérons-sophie.fr. Six fillettes âgées entre 7 et 10 ans ont été utilisées pour perpétrer les attentats suicides d'hier au Nigeria. Selon un responsable local, cette attaque a fait au moins 31 morts dans le nord-est du pays. Les attentats ont été suivis d'attaques à la grenade. Les auteurs présumés des djihadistes ont visé la foule qui s'était réunie sur le lieu du massacre. Un mort, trois blessés graves, une camionnette a renversé quatre piétons la nuit dernière à proximité du festival Pink Pop aux Pays-Bas. Le chauffeur a été arrêté ultérieurement.
RFJ, il est 12h25. Le journal de la Coupe du Monde.
monde avec la nouvelle Kia Stinger. Garantie 7 ans, un concentré d'énergie à découvrir chez vos partenaires Kia, les garages du PK associés, Auto GT à Pourentruy et Rigi à Delémont.
L'équipe de Suisse s'est réveillée avec le sourire ce matin. La satisfaction prédomine dans les rangs helvétiques au lendemain du match nul un partout décroché face au Brésil. Les hommes de Vladimir Petkovic ont réussi leur début dans cette Coupe du Monde en Russie. La Nati a prouvé qu'elle peut atteindre les huitièmes de finale. Son capitaine Stefan Lichtsteiner refuse tout de même de s'enflammer.
On est sûrement très contents, mais on sait qu'on a une très bonne équipe, on a les qualités pour faire des points contre tout le monde. Je crois que c'est un très bon départ, mais il faut rester par terre, avoir des pieds, parce qu'il reste encore beaucoup à prendre pour passer le groupe. On a su qu'on va avoir des occasions, on a su que c'est difficile d'arrêter tous ces joueurs, mais je crois à la fin on a très bien fait. C'est pour ça qu'on a mérité un point ce soir.
Des propos recueillis par nos confrères de RMC Sport. Ce matin, toute la presse romande s'est montrée euphorique. Mathieu Schaffner.
Un exploit face aux favoris, la Suisse à tout d'une grande ou encore la Suisse entre en danse en accrochant le Brésil. Le matin, Arc Info et 24h titrent en grand sur ce premier match de la Nati. Pour le quotidien Orange, la Suisse est désormais prête à changer de statut. Ce point obtenu est une promesse et ils mettent une pression positive sur cette équipe. Le matin qui tresse les louanges de Vallone Bérami, phénoménal pour sa 80e sélection. Le nouvelliste voit une entrée par la grande porte de la Suisse dans la Coupe du Monde. Le quotidien Jura lui a aimé la vaillance, le calme après le but brésilien et l'assurance technique de la Nati. La Liberté a vu un froid réalisme pour un réel exploit. Le quotidien fribourgeois qui constate que même lorsqu'elle n'évolue pas au sommet de son art, la Suisse est désormais capable d'accrocher les plus grands.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, deux hommes sont très souvent cités aujourd'hui dans la presse brésilienne. Retour de Mathieu Schaffner.
Il y a tout d'abord l'arbitre mexicain de ce match, César Ramos Palazuelos, est le coupable de la contre-performance de la Seleção. Ses décisions sont pointées du doigt, notamment le but accordé à Zuber suite à une poussette sur Miranda et le pénalty non sifflé pour une légère faute d'Akanji. O Globo évoque ainsi des controverses de l'arbitrage. Il y a aussi Neymar qui revient constamment dans la presse brésilienne. Globo Esport évoque la nouvelle coiffure du numéro 10 tout en soulignant une performance inférieure aux attentes. La star de la Seleção n'est pas apparue dans une forme que les supporters attendaient. Le traitement de faveur que lui a réservé le camp helvétique est aussi cité. Neymar a été ciblé par les Suisses. Il s'est plaint de douleurs aux pieds, écrit le Folha de São Paulo. Tous les médias s'accordent à dire que les Brésiliens ont bel et bien manqué leur début.
Et trois matchs sont au programme du jour en Russie. On commence à 14h avec l'affiche entre la Suède et la Corée du Sud à Novgorod. La Belgique va faire son entrée en lice face au Panama à 17h à Sochi. Et à 20h, duel entre la Tunisie et l'Angleterre à Volgograd. Toute l'actualité de la Coupe du Monde, c'est à retrouver entre 16h et 18h dans notre émission spéciale Les Tsars du Ballon Rond. L'ancien gardien suisse Sébastien Roth sera l'invité du quart d'heure des spécialistes. Très belle journée.
De la Coupe du Monde avec Helvetia, Patrick Raval, senior consultant et Stéphane Goffinet, chef de vente pour la joie.
Merci Raphaël et l'info en tout temps, vous le savez, vous la retrouvez sur rfj.ch. On passe à la météo et dans quelques secondes, les naissances. Et c'est toujours un temps assez ensoleillé que nous annoncent les experts de Météo News pour la suite de cette journée, avec de la bise qui va se lever et toujours ces cumulus de beau temps qui cachent parfois le soleil. Et au meilleur de la journée, le mercure grimpera jusqu'à des maxima de 18 degrés à Seignelay-Légier, 24 à Porrentruy, Delémont et Moutier. Demain, le beau temps est annoncé aussi avec des températures estivales et une bise modérée. Il fera entre 10 et 13 degrés à l'aube, puis au mieux 22 à 1000 mètres et 26 en pleine.